Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 1er février 2023. Le pape condamne de cruelles atrocités en République démocratique du Congo qui couvrent l'humanité de honte. Dans l'est du Mali, un policier et un civil ont été tués dans une attaque dans la localité de Sang. Les dirigeants de la Corne de l'Afrique réunis en sommet en Somalie s'entendent pour une impulsion finale contre les Shebab. Ici aux États-Unis, funérailles de Tyree Nichols, l'Afro-Américain, victime de violences policières à Memphis. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco, jusqu'à 50% des médicaments dans des pays du Sahel sont de qualité inférieure à la norme ou falsifiés selon l'ONU. Et pour les sports, le mondial des clubs de football débute aujourd'hui au Maroc. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. Le pape François a lancé ce mercredi un vibrant appel devant les cruelles atrocités perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo, après avoir célébré une messe devant 1 million de personnes à Kinshasa. Nathalie Barge.
Deuxième jour de sa visite dans le plus grand pays catholique d'Afrique, le souverain pontife s'est dit indigné devant l'exploitation sanglante et illégale de la richesse de la République démocratique du Congo, où les violences de groupes armés ont tué des centaines de milliers de personnes et jeté des millions d'autres sur les routes. J'adresse un vibrant appel à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent les ficelles de la guerre en RDC, en la pillant, en la flagellant et en la déstabilisant, a lancé le pape François. Il devait initialement se rendre à Goma dans le Nord Kivu, mais cette étape qui figurait dans le voyage prévu en juillet 2022 puis reportée a finalement été supprimée en raison des risques pour sa sécurité. Le pape a toutefois entendu les souffrances de 4 victimes dans des témoignages décrivant des atrocités commises dans l'est de la RDC. Il s'agit du 5e voyage sur le continent africain du chef de l'Église catholique depuis son élection en 2013. Après Kinshasa, il rejoindra vendredi Juba, capitale du Soudan du Sud, plus jeune État d'Afrique.
La Commission des droits de l'homme du Nigeria a nommé un groupe de travail chargé de vérifier les allégations d'une enquête de l'agence de presse Reuters selon laquelle l'armée aurait mis en place un programme secret d'avortement dans le cadre de sa lutte contre les insurgés islamistes dans le nord-est du pays. L'armée nigériane elle-même a déclaré qu'elle ne ferait pas d'investigation parce que le rapport était faux. La Commission nationale des droits de l'homme, qui est nommée par le gouvernement, a déclaré dans un communiqué publié sur son site web mardi qu'elle lancerait le groupe spécial la semaine prochaine à Abuja. Au Mali, au moins un policier et un civil ont été tués dans une attaque d'un poste de contrôle mardi soir dans l'est du pays en proie aux violences djihadistes. C'est ce qu'ont annoncé mercredi les autorités locales. Les précisions avec Rosine Monizé.
L'assaut a eu lieu en fin de soirée dans la ville de San, située à quelques 400 km à l'est de Bamako et à 80 km de la frontière avec le Burkina Faso, une zone plusieurs fois prise pour cible par les djihadistes. 2 gendarmes, un policier et 4 civils ont également été blessés et le poste de police a été saccagé. Selon le bilan de l'attaque fourni par la mairie et le gouvernorat de la localité touchée, selon une source policière locale, cette attaque a été perpétrée par de présumés djihadistes. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et à une grave crise à la fois sécuritaire, politique et humanitaire. Partie du Nord, la violence touche surtout le centre et l'est et s'est depuis étendue au Burkina Faso et Niger limitrophes. Les colonels qui ont pris le pouvoir au Mali en 2020 ont poussé à la rupture de l'alliance militaire avec la France et ses partenaires en 2022 et ont renforcé leur coopération militaire avec la Russie.
Le Tchad va inaugurer demain jeudi une ambassade en Israël, s'appuyant sur des relations bilatérales établies il y a 5 ans, a déclaré le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'annonce a été faite ce mercredi alors que le bureau du président tchadien Mahamat Debi a déclaré qu'il effectuait une visite de 48 heures en Israël. La déclaration de N'Djamena n'a pas fourni de détails supplémentaires sur l'agenda de M. Debi. Le bureau de M. Netanyahou a déclaré que le dirigeant tchadien officierait à l'inauguration de l'ambassade. Il n'a pas été immédiatement précisé où l'ambassade serait située. Les chefs d'État de la Corne de l'Afrique se sont réunis ce mercredi dans la capitale somalienne Mogadiscio pour un sommet sur la stratégie de lutte contre les islamistes Shabab qui mènent une sanglante insurrection depuis plus de 15 ans avec des attaques régulières, indique le gouvernement somalien dans un communiqué. Le point avec Nani Talani.
Les chefs d'État ont annoncé leur volonté de donner une impulsion finale pour libérer complètement la Somalie des islamistes radicaux Shebab, visés ces derniers mois par une vaste offensive militaire somalienne. Le sommet s'accorde pour donner l'impulsion finale aux opérations conjointes dans les zones qui restent aux mains des terroristes et libérer complètement l'ensemble de la Somalie des Shebab, ont annoncé ses dirigeants dans un communiqué. Ils sont convenus de planifier et d'organiser conjointement une puissante campagne de recherche et destruction des Shebab sur plusieurs fronts visant ses principaux bastions stratégiques en Somalie. Cette campagne urgente empêchera toute infiltration de futurs éléments Shebab dans la région au sens large, souligne-t-il. Ce sommet contre le djihadisme a réuni les présidents de la Somalie, du Djibouti et du Kenya et le premier ministre éthiopien. Le gouvernement fédéral somalien, soutenu par la communauté internationale, a lancé une offensive appuyée par la force de l'Union africaine et des frappes aériennes américaines qui a permis de reconquérir de vastes territoires dans le centre du pays.
Le Parlement marocain va se réunir en séance plénière lundi à Rabat pour examiner les critiques des députés européens qui se sont inquiétés de la détérioration de la liberté de la presse au Maroc et des allégations de corruption pesant sur le royaume. Dans une résolution adoptée à une large majorité jeudi à Strasbourg, le Parlement européen enjoint les autorités marocaines à respecter la liberté d'expression et la liberté des médias et à mettre fin au harcèlement de tous les journalistes. Il s'est également dit profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles les autorités marocaines auraient corrompu des députés au Parlement européen. Le test des eurodéputés a été mal accueilli à Rabat.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les funérailles de Tyree Nichols, mort après son passage à tabac par des policiers, se tiennent ce mercredi dans la ville de Memphis en présence de la vice-présidente Kamala Harris. Le point avec Abdourahman Dia.
L'avocat de la famille de Tyree Nichols, Ben Crump, doit lancer un appel à agir contre les violences policières. Un frère de George Floyd, quadragénaire noir, dont la mort en 2020 sous le genou d'un policier blanc avait suscité l'indignation, assiste également aux funérailles. Tyree Nichols, 29 ans, a été arrêté le 7 janvier par des agents d'une unité spéciale de Memphis dans le sud des États-Unis. Il a été battu par ses policiers à tel point qu'il était devenu méconnaissable d'après sa famille. Il est mort 3 jours plus tard à l'hôpital. La vice-présidente Kamala Harris s'est entretenue mardi au téléphone avec la mère de Tyree Nichols et son beau-père qui l'ont invité aux funérailles, selon leur avocat. Les 5 policiers, tous africains-américains, ont été licenciés et inculpés pour meurtre. L'unité Scorpion à laquelle ils appartenaient et qui avait pour mission de faire baisser le nombre d'activités illégales dans les quartiers sensibles en y déployant un plus grand nombre de policiers, a été démantelée. 3 pompiers ont été limogés en lien avec les faits et 2 autres policiers suspendus.
Le président américain Joe Biden reçoit aujourd'hui Kevin McCarthy, le nouveau patron républicain de la Chambre des représentants, pour un échange qui s'annonce tendu autour du budget de la dette américaine. Le président de 80 ans et le conservateur de 58 ans se verront à 20h15 GMT dans le bureau Oval pour accéder au perchoir. M. McCarthy s'est posé en défenseur intransigeant de la rigueur budgétaire. La Maison-Blanche précise que la rencontre se tiendra complètement à huis clos, sans aucun échange avec les journalistes ni photographes dans ce sein dessein du pouvoir américain. Le Kremlin a estimé aujourd'hui que la livraison potentielle de missiles de plus longue portée à l'Ukraine par les États-Unis ne changerait pas le cours des événements et que la Russie poursuivrait son offensive coûte que coûte. Les approvisionnements à missiles d'une portée de 150 km mèneraient vers un attisement des tensions, vers une hausse du niveau d'escalade. L'Ukraine et l'Union européenne tiendront vendredi un sommet à Kiev. Le gouvernement ukrainien se félicitant de ce signal fort envoyé à Moscou près d'un an après le début de l'invasion russe. De son côté, l'armée russe à l'offensive ces derniers jours a revendiqué mardi la conquête d'un village près de Bakhmout, point chaud des combats dans l'est de l'Ukraine. Le sommet avec les 27 est une étape importante plusieurs mois après l'obtention par Kiev du statut de candidat officiel à l'adhésion à l'Union européenne. Et puis la police pakistanaise a arrêté 23 suspects dans le cadre de l'enquête sur l'attentat qui a fait 101 morts lundi dans dans une mosquée au sein du quartier général de la police de Peshawar. La police enquête sur la question de savoir comment une faille majeure dans la sécurité a pu se produire. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouamadou Mfa.
Le patron de la compagnie française Total Energy devrait se rendre cette semaine au Mozambique pour discuter et évaluer les conditions de reprise des activités d'exploitation de gaz naturel dans le nord-est du pays, selon des sources gouvernementales mozambicaines. Elle a suspendu il y a près de 2 ans son projet d'exploitation de gaz naturel pesant 16,5 milliards d'euros après une attaque djihadiste d'ampleur près de son site de la péninsule d'Afungi. Plus de 4 millions de têtes de bétail sont mortes du fait de la sécheresse dans la corne de l'Afrique depuis fin 2021 et 30 millions d'autres sont menacés selon l'ONU. Les 5 dernières saisons de pluie depuis fin 2020 ont été inférieures à la normale du jamais vu depuis au moins 40 ans. Et la prochaine, de mars à mai, s'annonce également insuffisante. Jusqu'à 50% des médicaments dans les pays du Sahel sont de qualité inférieure à la norme ou falsifiés, s'alarme l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans un rapport publié mardi. Les médicaments décriés sont soustraits de la chaîne d'approvisionnement à partir de l'Europe et parfois de la Chine et de l'Inde. Ils passent souvent à travers les ports de mer de Guinée, du Ghana, du Bénin et du Nigeria avant d'être acheminés au Sahel.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacou.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Algérie-Sénégal, c'est l'affiche de la finale du CHAN.
Oui, Algérie-Sénégal, c'est à suivre ce samedi 4 février au stade Nelson Mandela d'Alger. En demi-finale hier mardi, le pays hôte a pulvérisé le Niger 5-0, dont un doublé de l'attaquant de l'USM Alger, Emen Mayous. L'aventure s'arrête ainsi pour le menant local qui a atteint ce stade de la compétition pour la première fois après 4 participations. Dans la deuxième demi-finale, le Sénégal a fait le service minimum face à Madagascar 1-0. Les Lions de la Teranga locaux joueront leur première finale de CHAN. Fin d'aventure aussi pour les Baria locaux qui, pour une première participation au CHAN, ont fait forte impression.
Une autre compétition majeure sur le continent, le Mondial de club débute aujourd'hui au Maroc.
La rencontre entre les Égyptiens d'Al Ahly et les Néo-Zélandais d'Auckland City ouvre le bal à Tanger. 7 clubs prennent part à cette compétition qui regroupe les champions continentaux des zones FIFA, plus le champion en titre du pays hôte. Il s'agit du Real Madrid, Al Hilal d'Arabie Saoudite, les Américains de Seattle Sounders, Auckland City, Flamengo du Brésil, Al Ahly d'Égypte et le Wydad de Casablanca. La succession des Anglais de Chelsea est donc ouverte. La Fédération marocaine de football a invité une centaine de journalistes pour cet événement. Ils ont visité ce matin le complexe Mohamed VI de Rabat. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Mohamed Danyoukou.
Un peu avant le début de la compétition officielle, les journalistes ont pu visiter le complexe Mohamed VI où l'équipe nationale et plusieurs autres catégories sont hébergées, se forment, s'entretiennent avant d'entamer les matchs. Qu'est-ce que ces journalistes ont pu voir et qu'est-ce qu'ils pensent de ce centre dont le modèle est certainement à dupliquer dans les autres pays au continent et au-delà?
Aujourd'hui, pour être une nation de football, il faut miser dans les infrastructures. Et aujourd'hui, le Maroc a compris qu'il faut que les joueurs soient dans de bonnes conditions pour pouvoir justement faire un bon jeu.
On a notamment reçu le président Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui avait déclaré que c'était un centre qui était dans le top 3 mondial. Et bien sûr que c'est une fierté pour nous en tant que Marocains, mais également en tant qu'Africains.
Cette compétition qui débute ce 1er février va prendre fin le 11 février. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique. Depuis Rabat Salé.
Ici aux États-Unis, en NBA, LeBron James fait respirer les Lakers.
Guidé par LeBron James en mode triple-double, 28 points, 11 passes décisives et 10 rebonds, les Lakers ont arraché un précieux succès après prolongation chez les New York Knicks, 129-123. À Milwaukee, il a encore fallu que Gianni Antetokounmpo sorte les muscles, 34 points et 18 rebonds, pour calmer les velléités des Hornets, accrocheurs mais battus 124-115. De son côté, Miami s'est imposé 197 à Cleveland. À l'ouest, le leader Denver a pu compter sur son double MVP Nikola Jokic, auteur d'un gros triple-double, 26 points, 18 rebonds et 15 passes décisives pour vaincre la Nouvelle-Orléans, 122-113. Enfin, les Clippers ont pris le dessus sur Chicago, 108-103.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le pape François a évoqué le pardon et la paix dans la première messe à Kinshasa, où il effectue depuis hier une visite de 3 jours. Pour en parler, Eddie Sango a reçu dans nos studios l'abbé Jean-Claude Atusameso du diocèse de Kikwit dans le Kwilu.
La sainteté du message du pape aujourd'hui, c'est que le pape apporte au peuple congolais un message de la réconciliation. Réconciliation entre eux, congolais, mais aussi réconciliation avec le monde. Et son évangile d'aujourd'hui, c'est un message fort qui a voulu que le peuple congolais puisse comprendre leur vie dans la foi comme une vie de pardon, comme une vie communautaire, mais comme ils sont en mission. Ce qui est important dans ces messages du pape, c'est en même temps aussi, il donne le pouvoir et la force, la paix à ce peuple qui a été meurtri, qui a connu des morts, pour que le peuple se relève. Mais aussi, le pape a lancé un message fort. Je considère ces messages du pape comme le message de Moïse devant Pharaon, qui a exigé à Pharaon de libérer le peuple de Dieu. Le pape demande aux grandes puissances de libérer le peuple congolais et de stopper tout ce qu'ils sont en train de faire pour voler les ressources naturelles et tuer le peuple. Il veut que la paix revienne au Congo et que le Congolais développe leur pays.
Quand le pape parle du pardon, il reconnaît quand même qu'il y a des grandes plaies au Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment guérir de ces plaies, de ces tueries qui continuent? Il y a les forces extérieures, mais il y a aussi les forces internes.
Le message du pardon, c'est en même temps un message que nous devons considérer comme une force. C'est-à-dire que le pardon, c'est une guérison. On se guérit en pardonnant à ce bourreau, à ceux-là même qui nous ont tués, qui nous ont meurtris. Mais en même temps, ça nous donne la force de se relever pour combattre afin que prochainement les gens ne viennent plus continuer à nous faire souffrir, à nous assujettir.
Et le pape parle aussi d'élections, mais on est dans une période électorale. Qu'est-ce qu'il a dit spécifiquement par rapport aux uns aux autres? Il y avait l'opposition, il y avait le pouvoir en place dans cette messe-là.
Le message fort du pape, c'est le message de la justice. Et il a recouru à Saint-Augustin pour dire que quand un peuple n'a pas de justice, les autorités qui sont dans ces pays-là sont considérées comme des voleurs. C'est un message que le pape a lancé auprès des autorités politiques pour qu'ils sachent qu'un pays est gouverné par la justice, par l'amour et que tous travaillent ensemble dans la même direction pour bâtir un grand Congo.
C'était l'abbé Jean-Claude Atusameso du diocèse de Kikwit.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
La représentante spéciale de l'Union européenne vient de finir une visite de 3 jours ici aux États-Unis. À Washington, elle a eu plusieurs rencontres avec des responsables américains sur la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel. Les États-Unis et l'Union européenne sont parmi les plus gros bailleurs de fonds pour plusieurs pays de la zone sahélienne. Que fait l'Union européenne pour aider à la lutte contre le terrorisme qui s'étend maintenant vers les pays du Golfe de Guinée? Idriss Fall a reçu dans nos studios, ici à la VOA, Mme Emmanuela Claudia Del Rey, représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel.
L'Union européenne est très consciente de l'importance d'intervenir avec les pays du Sahel qui sont notre partenaire pour faire face à la menace terroriste. On a investi beaucoup sur le plan de fonds qui sont à disposition des pays du Sahel. On a défini une stratégie intégrée pour le Sahel concentrée surtout sur la question de la gouvernance parce que les racines profondes de la question du terrorisme sont vraiment liées à la manque de gouvernance, à la nécessité d'avoir des structures istituzionali e soprattutto una situazione sociale che può far face aux attacchi terroristi. Noi siamo il partenaire principale di tutti i paesi del Sahel. On travaille ensemble pour trouver des solutions qui sont vraiment efficaces. Parce que nous sommes convaincus que toutes les dynamiques qui se passent dans la région ont un impact en nous et ont un impact vraiment grave sur la région. Et la région mérite d'être stable, d'être prospère, d'avoir un futur.
Parlant de gouvernance quand même, il y a beaucoup de jeunes enrôlés dans ces mouvements djihadistes.
Pour moi, les jeunes méritent d'avoir un espoir pour le futur. Et chaque individu mérite d'avoir l'opportunité de se réaliser comme il veut ou elle veut. Et c'est pour ça que l'Union européenne s'engage beaucoup sur le plan d'aider la jeunesse, de l'éducation. Par exemple, on va approfondir la question de l'employement. Ce sont toutes des choses qui agissent sur le plan social, mais le plan social est fondamental parce qu'on sait très bien la raison pour laquelle les jeunes acceptent l'offre négative du terrorisme est pour avoir quelque rôle dans la société. Alors, on doit offrir une alternative positive et surtout promouvoir l'individu comme agent social.
Ma dernière question, est-ce que l'Union européenne peut ou devrait s'engager militairement davantage pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel?
Nous avons fait beaucoup sur le plan sécuritaire. Nous avons entraîné beaucoup de soldats. Nous avons mis en place beaucoup de moyens pour aider les pays du Sahel à faire face à la menace terroriste, aussi de groupes criminels. Dans ce moment, on, par exemple, dans des pays comme la Mauritanie et le Niger, parce qu'on est convaincu qu'on doit rester engagé et être aussi impliqué sur les questions de sécurité. Bien sûr, la question de sécurité, comme je dis, est vraiment liée à la question du développement et on doit travailler ensemble avec notre partenaire africain, surtout avec les sahéliennes, pour trouver des solutions qui sont vraiment viables. On a besoin de messages très clairs sur leur volonté de rester engagé avec nous et surtout avoir une position, une posture qui démontre qu'il veut être avec nous et travailler avec nous pour le futur.
Emmanuela Claudia Del Rey, représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Au Cameroun, un millier de réfugiés nigériens qui avaient fui les exactions de Boko Haram sont rentrés la semaine dernière dans leur pays d'origine. Parmi eux, de nombreuses femmes qui bénéficient d'un programme de réinsertion socio-économique. Le reportage de notre correspondant Emmanuel Jolentab depuis le camp de réfugiés de Minao dans le nord du pays.
Nous sommes au camp des réfugiés de Minao dans l'extrême nord du Cameroun, proche du Nigeria. Les réfugiés s'enregistrent pour confirmer leurs intentions de retour volontaire à la veille du départ d'un convoi de rapatriement chez eux. Dans les rangs, Falmata Moussa, une mère de 6 enfants qui a passé 6 ans au Cameroun et retourne à Banki, une ville de l'état de Borno, Nigeria.
J'ai ma machine à coudre, je compte m'installer là-bas pour développer mon activité. J'ai fait 1 an de formation avec M. Moïse de Plan International. Il nous a formés et nous avons acquis des capacités.
Comme Falmata, plusieurs autres femmes nigériennes, réfugiées du camp de Minao, ont bénéficié des formations professionnelles. Bettina Gambet est la représentante adjointe du ACRE Cameroun.
Beaucoup de femmes donc, ont bénéficié de ces formations. Donc là, c'est avec nos partenaires, mais également avec le MINPROF, où des formations professionnelles ont été dispensées, aussi bien certains domaines tels que la couture, la coiffure et autres. Et on a mis également un accent particulier sur des femmes qui avaient été victimes de violences, pour que, justement, quand une femme est victime de violence, dans la réponse, on essaie à ce que la femme puisse accéder assez rapidement à une activité professionnelle pour qu'elle puisse redevenir autonome et indépendante le plus rapidement possible.
Un volet assistance s'applique aussi lorsque ces anciens réfugiés regagnent leur pays d'origine. Hélène Ngor, porte-parole du HCR au Cameroun.
Ils bénéficieront d'un abri semi-durable. Il y aura aussi une assistance en cash, une assistance alimentaire pendant 6 mois. Il y a le plaidoyer que le HCR fait pour les activités génératrices de revenus. Le plaidoyer est vraiment transversal pour faciliter la réintégration de ces réfugiés dans la société ou dans la communauté dont ils vont se retrouver. Donc.
66 000 réfugiés nigériens, dont majoritairement des femmes et des enfants, ont été accueillis au Cameroun depuis 2013. Entre mars et avril 2021, plus de 3 800 sont rentrés volontairement. Leur insertion socio-professionnelle se passe plutôt bien, d'après Lawan Abba Walkibé, commissaire à l'éducation dans l'état de Borno.
Tout est prêt pour recevoir ce convoi des réfugiés. Ce que vous voyez avec les derniers que nous avons accueillis, tout l'accompagnement en leur faveur est un succès. Il n'y a pas de point négatif. Donc, nous sommes prêts pour les recevoir et les réintégrer normalement.
Le Haut Commissariat pour les réfugiés assure que les ex-réfugiés femmes regagnent leur localité d'origine, munis des documents officiels tels que les actes de naissance de leurs enfants nés au Cameroun afin de faciliter leur éducation. Emmanuel Juntap, depuis le camp de réfugiés de Minawo, pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Je vous propose maintenant d'aller à la découverte d'une application conçue pour imiter une conversation humaine basée sur les demandes de l'utilisateur, le chatbot ChatGPT. C'est ainsi que se nomme cette technologie qui utilise l'intelligence artificielle. Elle a attiré l'attention l'année dernière dans la Silicon Valley. Les détails avec Ginny Niwa.
Le lundi 23 janvier, la société Microsoft a annoncé un nouvel investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, inventeur de ChatGPT basé à San Francisco. ChatGPT utilise ce que l'on appelle l'IA générative, une technologie qui peut apprendre comment créer pratiquement n'importe quel type de contenu simplement à partir d'une invite de texte, ce qui ouvre la voie à une concurrence accrue avec Google.
GPT signifie Generative Pre-trained Transformer. C'est un modèle d'intelligence artificielle qui est formé sur un très grand ensemble de données de texte. Vous pouvez lui donner une entrée et il vous fournira une sortie. En gros, ce qu'il fait, c'est continuer d'écrire ce que vous lui avez demandé. Si vous lui avez posé une question, il y répondra. Si vous lui demandez de continuer ce que vous écrivez, il le fera.
OpenAI déclare que son modèle ChatGPT peut simuler un dialogue, répondre à des questions de suivi, admettre des erreurs, contester des hypothèses incorrectes et rejeter des demandes inappropriées.
ChatGPT est un modèle de langage. Ainsi, dans le terme le plus simple possible, un modèle de langage est un modèle statistique qui prédit le mot suivant dans une séquence de mots. Ce n'est pas une chose nouvelle. Ils ont été inventés, en fait, au début des années 1990, donc il y a des décennies. Bien sûr, il y a une petite révolution dans les modèles statistiques depuis lors. Donc, les premières versions avaient de très très petits réseaux de neurones. Et depuis lors, les réseaux de neurones se sont agrandis. Ils sont devenus plus profonds. Ils ont été formés sur une quantité inouïe de données. Et bien sûr, il y a eu toute cette révolution du cloud computing. Nous avons donc maintenant des degrés énormes de puissance de calcul pour former ces modèles sur de nombreuses données.
Comme pour de nombreuses innovations basées sur l'IA, ChatGPT ne va pas sans inquiétude. La technologie de l'IA peut également perpétuer des préjugés sociétaux comme ceux concernant la race, le sexe et la culture. Les géants de la technologie, dont Google et Amazon, ont précédemment reconnu que certains de leurs projets qui expérimentaient l'IA étaient éthiquement risqués et avaient des limites.
L'application de ces choses dans les chatbots est évidente et je suis sûr qu'il existe des preuves de concept. En fait, même des produits utilisant quelque chose comme ça. La façon dont je l'utiliserais en ce moment, si j'étais un adversaire et si je faisais quelque chose de malveillant, j'écrirais un script qui contient des tweets et créerais ensuite des réponses harcelantes toxiques, où j'y mettrais des tweets politiques et je les remplacerais soit contre eux, soit pour les soutenir. Influencer ce que serait le paysage politique perçu sur les réseaux sociaux, par exemple. Ainsi, vous pourriez automatiser le harcèlement des individus.
Un outil comme ChatGPT pourrait être utilisé dans des applications du monde réel, telles que le marketing numérique, la création de contenu en ligne, répondre aux questions du service à la clientèle, ou comme certains utilisateurs l'ont réalisé, même pour aider à corriger les erreurs d'un logiciel.
Voilà, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.